Préparez-vous à un passionnant voyage dans le temps, au Moyen-Âge, au pays des Capétiens et des Plantagenêts, à la recherche de la fougueuse Aliénor d'Aquitaine. Ce sera un voyage mouvementé, ponctué d'intrigues, de complots et de passions. Aliénor, dont je vais vous conter le destin, a été deux fois reine de France et d'Angleterre. À 14 ans, elle hérite du duché d'Aquitaine. À 15 ans, elle épouse le roi de France, Louis VII. Puis elle se lie à 30 ans avec Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre. Bref, son empire s'étend de l'Écosse jusqu'aux confins des Pyrénées. Aliénor envoûte tous ceux qu'elle croise, hommes ou femmes, déjouant avec brio toutes les trahisons, voyageant à travers toute l'Europe jusqu'à l'âge de 80 ans, infatigable, conquérante, séductrice ou parfois scandaleuse. Aliénor aura 10 enfants, dont 3 seront rois, comme Richard Cœur de Lion ou Jean Sans Terre. Leur sang coule encore dans les veines des plus grands souverains d'Europe, parce qu'Aliénor est le trait d'union entre la dynastie des Lys de France et celle des Lions d'Angleterre. Voici donc le destin unique de l'une des plus grandes figures de notre Moyen-Âge, Aliénor d'Aquitaine, la belle et rebelle.
Vous écoutez Secret d'Histoire, Aliénor d'Aquitaine, une rebelle au Moyen-Âge. Première partie.
Aliénor, c'est une duchesse du Sud. L'Aquitaine avait la réputation d'être beaucoup plus truculent, beaucoup plus coloré, vif, chaud bouillon.
Clara Dupont-Monod, écrivaine.
Que le Nord.
Aliénor a effectivement ce caractère des Aquitains qui peut être très chaleureux, très emphatique et en même temps, elle est très colérique, elle est excessive aussi parfois.
On n'a pas vraiment de description physique d'Aliénor.
Philippe Delorme, historien.
Un certain nombre de chroniqueurs nous disent qu'elle était per pulchra, ce qui veut dire en latin très belle.
Le canon de la beauté au Moyen-Âge, c'est blonde, le teint pâle, les yeux bleus et la taille très fine.
C'est une femme très dynamique, très tonique, donc elle a un corps qui est sculpté.
Aujourd'hui, on considérerait que c'est une bombe sexuelle, ça, il n'y a pas de doute.
Cette jeune fille de caractère, dont les traits restent flous, a été librement représentée à travers les siècles. 800 ans plus tard, Aliénor inspire encore. Arnaud de Lalande, auteur de bande dessinée, a consacré plusieurs albums à cette femme parmi les plus fascinantes de notre histoire.
On l'appelle, nous, la Scarlett O'Hara du Moyen-Âge, c'est-à-dire que c'est une femme dont on sait par avance qu'elle est majestueuse, belle, intrigante, parfois perfide. Et en même temps, une femme qui est un piège, parce que tout homme va en tomber amoureux, et du moment de la seconde où il tombe amoureux, il sait que ça va être son pire cauchemar.
Le premier à succomber au charme d'Aliénor, c'est le futur roi de France, Louis VII, dit le jeune.
Les chroniqueurs ont tous écrit que Louis VII était très amoureux d'Aliénor d'Aquitaine. A priori, il aurait quand même chaviré devant elle. Au moment où il la voit, il tombe amoureux d'elle. Ça, c'est quand même indiscutable.
Leur rencontre se passe le jour de leur mariage, à Bordeaux. Aliénor, jeune duchesse héritière du puissant duché d'Aquitaine, a été promise au dauphin de France. La cérémonie fastueuse se déroule ici, en la cathédrale Saint-André, le dimanche 25 juillet 1137.
Tout le cortège traverse la ville et toute la population a vraiment le temps d'acclamer, de célébrer la duchesse Aliénor et le futur roi.
Christine Goudul, guide à l'Office du tourisme de Bordeaux.
L'échange des consentements a lieu à l'extérieur parce qu'il faut que les féodaux, les chevaliers, tout le monde puisse entendre. La cathédrale est un peu petite pour regrouper tout le monde. La duchesse et le futur roi étaient sous un dé, hein, c'était classique. Et puis il y avait un décor de rose, parce que la rose, c'est la fleur que l'on aime au Moyen-Âge et surtout, c'est la fleur de la Vierge.
On donnait au mari 13 pièces de monnaie dans la main et puis un anneau qu'il tenait entre le pouce et l'index. Cet anneau qu'il met au pouce de l'épousée en disant « Je te prends pour femme ».
La cérémonie se poursuit à l'intérieur de l'édifice. Alors cathédrale romane. Les vestiges de cette époque sont rares.
L'émotion est vive. D'abord, ils sont très jeunes. Elle a 15 ans, il a 16 ans. Et il tombe éperdument amoureux d'elle parce qu'il est face à cette femme magnifique de son âge, ce qui est quand même un plus hein, à l'époque, somptueusement vêtue.
Aliénor, elle n'est pas en blanc, elle est en rouge, une robe écarlate. Après le sanctum, on met le voile par-dessus les époux qui s'échangent le baiser de paix. Ce qui est quand même assez intéressant, ça veut dire donc qu'on évite la guerre.
Car ce mariage est avant tout politique. Un épisode capital dans l'histoire de Bordeaux. En mémoire, au XIXe siècle, on sculpte dans la cathédrale les visages de Louis, futur roi de France, et d'Aliénor, la plus riche héritière du royaume.
La France du XIIe siècle n'est pas un État uni comme aujourd'hui, mais c'est une sorte de mosaïque où il y a des grands princes, des ducs, des comtes qui se partagent, qui sont les provinces actuelles.
L'Aquitaine, en gros, ça va de Poitiers jusqu'aux Pyrénées et ça déborde sur l'Auvergne. Donc c'est une vingtaine de départements, ce qui fait d'Aliénor le seigneur le plus puissant d'Occident. À côté, le royaume de France, c'est une poignée de départements, c'est tout petit, c'est l'île de France quasiment telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça déborde un peu sur Soissons et jusqu'à Bourges. Donc qui épouse Aliénor devient incontestablement un seigneur terrien infiniment puissant.
Une aubaine pour le futur roi de France, à un détail près, le contrat de mariage.
Le mariage d'Aliénor ne va pas la déposséder de ses terres, elle va en rester la duchesse et la gérante.
Mireille Calmel, romancière historique.
L'Aquitaine garde ses lois, ses règles, ses impôts, toute sa gestion territoriale.
Reste à sceller cette union par la conjonction des sexes, autrement dit, la nuit de noces.
Le premier rapport entre l'homme et la femme fait partie, en quelque sorte, de la cérémonie de mariage. D'ailleurs, on a encore à cette époque des prières, des bénédictions dans la chambre nuptiale par un prêtre qui vient et qui bénit le lit. Ça a un aspect assez rituel, finalement, et assez religieux.
La nuit de noces d'Aliénor est une grande nuit de déception.
Michel de Decker, historien.
Incontestablement, parce que Louis VII n'est au courant de rien, ne sait pas faire plaisir à sa jeune épouse et ne connaît rien à la chair.
La seule phrase qu'on connaît d'Aliénor, c'est un soupir exaspéré où elle dit « Oh, j'ai épousé un moine !» Ce qui veut dire tout.
Louis VII était quelqu'un qui avait été élevé pratiquement pour devenir un ecclésiastique. Qui avait reçu une éducation religieuse assez poussée.
C'est un homme tourné vers la prêtrise, extrêmement dévot, qui passe son temps en prière, au pied de la croix. Louis VII n'est pas du tout destiné à devenir roi.
C'est son frère aîné, qui s'appelle Philippe, qui était appelé à régner, et il se trouve que Philippe meurt. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va chercher le cadet, on le sort du cloître, on l'habille de fer, on le pousse dans les reins et on lui dit « tu vas régner ».
En route vers Paris avec sa jeune épouse, Louis VII apprend la mort subite de son père, le roi des Francs, Louis VI, dit le Gros.
Le roi est mort et vive le roi. Vive le roi, c'est-à-dire vive Louis VII.
Louis VII devient alors le sixième souverain de la dynastie des Capétiens. Aliénor est couronnée reine de France à 15 ans et découvre son nouveau royaume.
Paris, au XIIe siècle, c'est une petite ville assez sale, hein.
On balance, bien sûr, les excréments, les ordures, tous les déchets par les fenêtres. Inutile de dire que Paris, qui n'est pas pavé à l'époque, est donc une vaste déchetterie à ciel ouvert qui mijote dans sa crasse.
Aliénor va être assez déçue par rapport aux villes qu'elle pouvait connaître dans le sud de la France.
La jeune reine découvre également le palais des rois de France, symbole du pouvoir sur l'île de la Cité. Un édifice en partie détruit, dont les vestiges abritent aujourd'hui le palais de justice de Paris.
Aliénor apporte une certaine joie de vivre à la cour de France, et notamment par l'apport de la littérature.
Aliénor a reçu une éducation, on peut dire, brillante. C'est vrai qu'elle lit couramment, on lui a appris les auteurs classiques, les auteurs latins, elle adore la poésie. C'est quelqu'un de raffiné culturellement.
Quand elle arrive en France, à la cour du Nord, elle amène les troubadours, elle amène la couleur des mots, elle amène aussi toute une poésie, du coup, un peu érotique, un peu libertine. Le troubadour, c'est un poète qui chante ou mime ou raconte son poème.
Généralement des histoires d'amour, d'amour impossible entre une haute dame et un chevalier transi de passion pour elle, etc. Enfin bon, ce sont de belles histoires et donc nécessairement la cour de France sent un vent de jeunesse souffler sur elle.
Une modernité qu'Aliénor fait aussi souffler sur la mode, très austère à Paris.
À la cour d'Aliénor d'Aquitaine, c'est une mode considérée scandaleuse qui, aussi bien pour homme que pour femme, est cintrée au niveau du torse.
Tina Anderlini, historienne du costume.
Donc du coup, on découvre une chose absolument incroyable pour la première fois depuis pas mal de siècles, depuis on va dire la chute de l'Empire romain, c'est que les femmes ont des seins, tout simplement. Donc les femmes ont des seins, les femmes ont une taille fine, et tout ça est mis en valeur. C'est une mode qui choque énormément les religieux en particulier, et d'autres moralisateurs, et qui est une grande consommatrice de tissus, donc gaspillage, donc scandale aussi. Le secret de ce qu'il y a sous la robe, c'est en fait qu'on a un vêtement composé de lin, qui est l'unique sous-vêtement. Il n'y a pas de culotte, pas de soutien-gorge. Éventuellement, comme le canon de beauté est quand même aux poitrines qui ne sont pas trop opulentes, on peut avoir une bande de lin qui va maintenir les seins et qui va un petit peu les aplatir, mais ce sera tout. C'est une mode donc qu'on trouve en France, qu'on trouve en Angleterre, qu'on trouve en Allemagne. Donc c'est le top de la mode de l'époque.
Ces étoffes précieuses et scandaleuses, la nouvelle reine de France les achète derrière ses remparts, les plus imposants de France au Moyen-Âge. Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011, Provins est construite au XIe siècle pour le commerce. Là, à 100 km de Paris, le comte de Champagne, puissant vassal du roi Louis VII, donne rendez-vous aux marchands de toute l'Europe.
Alors on peut dire que Provins à l'époque, si on veut comparer avec la période actuelle, était un vaste salon professionnel.
Jean-François Robin, directeur de l'Office du tourisme de Provins.
C'était un peu le Villepinte de l'époque et on accueillait pendant une certaine période donc des marchands qui venaient vendre plutôt des marchandises en gros et des marchandises de luxe. Ce sont les comtes de Champagne qui vont tout mettre en place, qui vont planifier, construire leur ville pour accueillir cette activité commerciale. Ils vont penser à tout, ils vont construire des halles, des réserves, des boutiques, des maisons qu'ils vont louer aux marchands. Provins va acquérir une notoriété qui va bien entendu dépasser les frontières. Les suzerains, les seigneurs, les rois viendront à Provins découvrir toutes ces merveilles qui viendront de très loin, y compris d'Orient.
À Provins, Aliénor trouve les plus belles fourrures, les laines les plus soyeuses sur les nombreux étals de la ville. La Grange aux Dîmes est alors un lieu incontournable de ces foires de champagne.
On a un marché couvert qui est cloisonné en boutiques. Et l'architecture est prévue pour aménager des stands. Parmi les marchands qui ont pignon sur rue aux foires de Champagne à Provins, il y a le marchand italien. Le marchand italien, c'est quelqu'un d'important. La puissance maritime commerciale de l'Italie et de Venise permet de ramener des denrées luxueuses qui viennent de très loin, qui viennent d'Orient. On a par exemple les épices, qui sont une denrée extrêmement rare, d'une très grande valeur. On va même payer en épices, d'où l'expression après qui est devenue payer en espèces. C'était payer en fait avec des épices. Donc on a le poivre, on a le clou de girofle et bien d'autres épices encore, mais également les tissus, des tissus luxueux. Donc nous avons par exemple la soie, la route de la soie, très très important au Moyen-Âge. Voilà ce que trouvait Aliénor d'Aquitaine à Provins pendant les foires de Champagne chez notre marchand italien.
Elle décoiffe Aliénor. Pourquoi ? Mais parce qu'elle amène les tissus colorés, il y avait beaucoup moins de couleurs à la cour du Nord. Elle amène les cheveux détachés dans le dos.
On va tout lui reprocher. Sa garde-robe, les troubadours qu'elle a amenés avec elle, on va lui reprocher sa mise, son maquillage...
On l'aime pas, on s'en méfie. En plus, Louis VII est fou d'elle. Alors attention, là, pour le coup, ça devient dangereux.
Le roi est amoureux fou. Et pourtant, il ne tarde pas à décevoir la jeune reine.
Elle va s'apercevoir très rapidement qu'il n'est pas à sa pointure, si je puis dire, parce qu'elle est brillantissime, elle est calculatrice, intelligente. Louis VII est triste, sinistre. C'est vrai qu'il voulait être moine, mais il a tout pour ça, il ressemble à un moine.
6 ans après le mariage du couple royal à Bordeaux, le trône de France n'a toujours pas d'héritier. Seule raison à cela, le respect du roi pour les périodes traditionnelles de pénitence imposées par l'Église.
Il y a les dimanches, il y a les carêmes.
Martin Aurel, historien.
Il y a aussi la période de l'Avent.
Autrement dit, Louis VII ne fréquente pas assez le lit d'Aliénor.
C'est vraiment un sacrifice de rejoindre l'alcôve de son épouse pour essayer de propager la race des Capétiens.
Aliénor se retrouve plongée dans une austérité monacale.
Que ce soit dans le royaume de France, en Aquitaine, et plus tard, comme ici, en Anjou, sa vie durant, Aliénor soutient de nombreuses abbayes par ses dons. Et Fontevraud sera sans doute celle qui bénéficiera le plus de toutes ses largesses. Aliénor d'Aquitaine confie même l'éducation de deux de ses 10 enfants aux abbesses de Fontevraud. Cet attachement n'est pas sans raison. Dès sa fondation, en 1101, Fontevraud n'est pas une abbaye comme les autres. Dans des bâtiments séparés, vivent une communauté d'hommes et deux communautés de femmes. Et à sa mort, son fondateur Robert d'Arbrissel confie la direction de l'abbaye à une abbesse. Autrement dit, la cité monastique de Fontevraud est le seul endroit de France où les hommes sont dirigés par une femme. Cela ne peut que ravir Aliénor d'Aquitaine, dont la soif de pouvoir, une fois sur le trône de France, est décidément bien contrariée.
Aliénor n'a pas voix au chapitre sur la politique du royaume de France. Dans l'ombre de Louis VII, un homme prend toutes les décisions. Ce ministre, c'est l'abbé Suger.
Cet abbé Suger va être un ministre tout à fait compétent, lui qui, en quelque sorte, je dirais, sera plus le véritable roi que le roi.
L'abbé Suger, il est très très dévoué à la royauté. Il va être l'ombre tutélaire qui conseille, qui apaise, qui tempère.
Pour Suger, le roi, il est sacré. Il est le représentant de Dieu sur terre. Et donc Suger va favoriser l'adoption par le roi de la fleur de lys.
Philippe Plagneux, professeur d'histoire.
Le lys, en quelque sorte, scelle ce rapport entre le ciel et la terre.
Père spirituel de Louis VII et abbé de Saint-Denis, ce moine conçoit pour son roi un projet fou, construire la première nécropole des rois de France. C'est donc à lui que nous devons l'édification au XIIe siècle de la première basilique Saint-Denis, à l'emplacement même du tombeau du tout premier évêque de Paris.
À l'époque de Suger, puis avant, on pense qu'il a vécu à l'époque du Christ. Donc il est un apôtre pour eux, et donc c'est lui qui vient fonder le christianisme en Gaule. Suger veut faire admettre au roi que Saint-Denis, c'est le cimetière des rois. Les rois doivent être enterrés ici, car Saint-Denis, c'est le seul qui puisse protéger l'âme du roi et l'accompagner en paradis.
Comme l'a voulu Suger, Saint-Denis est devenu l'écrin des sépultures royales. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses et 10 grands du royaume y reposent, de l'époque mérovingienne à la Révolution française. Pour magnifier son église, honorer Dieu et glorifier le royaume de France, Suger accumule à Saint-Denis un trésor extraordinaire. Parmi ses joyaux, l'épée du sacre de Charlemagne. Mais le plus précieux, c'est le vase d'Aliénor, en cristal de roche, venu d'Orient. Très rare au Moyen-Âge. Le seul objet ayant appartenu à Aliénor d'Aquitaine qui soit parvenu jusqu'à nous.
Lorsque Suger a reçu le vase de cristal, sur la base du pied, il a fait écrire « Ce vase, Aliénor, son épouse, l'a donné au roi Louis. »
Élisabeth Antoine, conservatrice au musée du Louvre.
« Le roi à moi, Suger, qu'il est offert au saint, c'est-à-dire à l'abbaye de Saint-Denis. » Il l'a transformé, enrichi pour le service de la messe. On voit des améthystes, des saphirs, des émeraudes, des perles, des rubis. Cette beauté renvoie à la beauté spirituelle et au sacré.
Le 11 juin 1144 est un jour important pour Suger. Il attend impatiemment Aliénor et Louis VII pour inaugurer en grande pompe le cœur de son abbaye. Mais l'arrivée du roi n'a pas le faste attendu.
Louis VII, ce jour-là, arrive en pénitent. C'est-à-dire qu'il arrive quasiment dans des sandales en cuir, quasiment semi-nu, tout entier dévolu, avec une ferveur limite malsaine, dans les mains de Dieu.
Le roi espère s'absoudre de l'horrible péché qu'il vient de commettre par amour pour sa femme. Un drame causé par l'entêtement d'Aliénor à marier sa sœur Pétronille.
Pétronille est amoureuse de Raoul de Vermandois. Problème, Raoul de Vermandois est déjà marié. Qu'à cela ne tienne, dit Aliénor, ça n'a aucune importance, mariez-vous quand même tous les deux. Bon, ce qu'ils font, ils se marient. Là-dessus, évidemment, on imagine bien que la première femme de Raoul de Vermandois n'est pas très heureuse, et donc le fait savoir, il se trouve que c'est la nièce du comte de Champagne.
Furieux de voir sa nièce répudiée, Thibaut de Champagne soulève ses troupes à Vitry-en-Pertois contre le roi de France. Louis VII ordonne à ses hommes de mater la rébellion.
Louis se fait déborder, très vite. Les habitants se réfugient dans une église et là, brusquement, des soldats mettent le feu à l'église.
À l'intérieur, 1500 villageois réfugiés meurent dans l'incendie.
Donc on aura notre premier Oradour-sur-Glane, qu'on le doit à Aliénor, et il a lieu à Vitry-en-Pertois, qui s'appellera pendant très longtemps Vitry le Brûlé, à cause de ce carnage. On raconte que Louis VII, à cause des hurlements des 1500 femmes et enfants, va s'affaisser, va cesser de boire, de manger, de parler pendant 3 jours.
Et surtout, il quitte le lit d'Aliénor.
Sans enfants, Aliénor risque la répudiation. Elle se tourne alors vers le seul homme capable de la faire rentrer en grâce auprès de son époux. Après la cérémonie d'inauguration de Saint-Denis, elle rencontre, dans le plus grand secret, l'abbé Bernard de Clairvaux, futur Saint-Bernard, l'un des plus proches conseillers du pape.
Elle arrive à le convaincre qu'il faut absolument qu'elle l'aide à regagner le lit de son époux parce que le royaume a besoin d'un héritier. Et Bernard de Clairvaux va voir le roi et lui dit « Écoutez, il faut un héritier au royaume, Louis, faites un effort. » 1 an plus tard, Marie vient au monde.
Marie naît donc en 1145, 8 ans après le mariage de Louis VII et d'Aliénor. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, pas du tout.
Marie est une petite fille. Évidemment, on attendait un héritier.
Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour le roi de France.
Les Turcs ont repris le comté d'Édesse, qui est l'actuelle Urfa, au sud-est de la Turquie. Édesse, c'est un bastion chrétien retombé aux mains des Turcs. C'est une catastrophe.
En Terre Sainte, qui avait été reconquise par les croisés depuis une cinquantaine d'années, il y a un retour des musulmans et des Turcs qui essayent de chasser les chrétiens à la mer.
Le risque que les musulmans reprennent aussi le tombeau du Christ à Jérusalem sous l'hégémonie des Francs depuis 50 ans. Inacceptable pour Louis VII, qui convainc alors les autres souverains d'Europe de lever une armée pour mener une croisade.
C'était pas seulement une guerre qu'ils allaient mener, c'était aussi une sorte de pèlerinage vers le lieu saint.
Surtout parce que le pape avait promis à quiconque irait se recueillir devant le tombeau du Christ une indulgence plénière, c'est-à-dire que tout le monde voyait ses péchés pardonnés, absous.
L'occasion idéale, donc, pour Louis VII, d'expier enfin le drame de Vitry-en-Pertois.
Louis VII part en croisade avec Aliénor d'Aquitaine.
En dehors de la reine, il va y avoir aussi de nombreuses grandes dames qui vont suivre son exemple.
Et d'ailleurs, les évêques sont furieux et écrivent au pape en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette croisade qui part avec, d'abord, ces bourrées de femmes, et ça n'augure rien de bon parce que ça va être l'orgie. »
Tout ça, ça fait une troupe assez hétéroclite qui va, en plus, traverser l'Europe.
Le départ du couple royal pour cette seconde croisade de l'histoire va marquer un autre monarque, 7 siècles plus tard. En 1830, à Versailles, le roi Louis-Philippe fait du château du Roi Soleil un musée à toutes les gloires de la France. 5 salles sont réservées aux croisades. Un lieu unique en France, très secret, fermé au public, où Louis-Philippe a souhaité rendre hommage à Aliénor et Louis VII à l'aube de cette incroyable épopée.
Louis VII a essayé tout seul de réveiller sa chevalerie, de l'entraîner à la croisade, et ça n'a pas du tout fonctionné.
Frédéric Lacaille, conservateur au Musée national du château de Versailles.
Et il a fait appel à Saint-Bernard, qui est donc un cistercien très exalté, qui a pu en fait effectivement faire un prêche enflammé à Vézelay pour répondre à l'appel du pape et du roi à la croisade. Aliénor d'Aquitaine étant une princesse très richement dotée de terres, elle est là avec son mari, et de la même façon que son mari recrute toute la chevalerie du royaume de France, elle-même doit recruter la chevalerie de son duché d'Aquitaine.
Sur le second tableau, Aliénor en prière accompagne le roi prenant l'oriflamme à Saint-Denis. Sous le regard de l'abbé Suger, à qui le roi confiera la régence du royaume en son absence. Une collection de scènes historiques peintes au XIXe siècle, dont un emplacement, est resté vide.
Il y avait un tableau dont on regrette qu'il n'ait pas été livré finalement par son auteur, qui montrait Aliénor d'Aquitaine, précisément, levant, prenant la croix, en fait, avec les dames de sa cour, qui avait été demandée par Louis-Philippe à Winterhalter, un jeune peintre allemand. Mais Winterhalter, finalement, submergé de commandes de portraits royaux, a renoncé à sa commande. Donc l'emplacement manque toujours.
Leur arrivée à Constantinople est un enchantement. Il y a de l'or partout, les coupoles sont dorées, le soleil étincelle dessus, il y a le Bosphore, évidemment.
Constantinople, c'est la grande ville du XIIe siècle. Constantinople, c'est New York aujourd'hui, c'est vraiment la ville des villes, avec une richesse et une splendeur tout orientale.
Aliénor est d'un coup projetée dans un univers de parfums qu'elle n'a jamais senti. Les draps sont faits dans un tissu qu'elle ne connaissait pas. Les épices qu'elle avale, ce sont des saveurs totalement inconnues.
Le carvi, la cannelle, le gingembre, la muscade ou le cumin, autant d'arômes nouveaux. En Terre Sainte, Aliénor se passionne pour l'extrême raffinement de la cuisine orientale.
Parmi les épices qu'Aliénor découvre, il y a le sucre. Voici un pain de sucre. Le sucre était considéré comme une épice, une denrée extrêmement précieuse, extrêmement rare, très coûteuse. Donc, un gramme de sucre avait la valeur d'un gramme d'or.
Éric Birloez, historien de la cuisine.
Parmi les légumes qu'elle découvre en Orient, on a les aubergines, par exemple, qui ne sont pas encore introduites dans le royaume de France à son époque. Les échalotes également sont originaires du Proche-Orient. Il y a également les épinards dont la consommation va vraiment se développer à partir du retour d'Aliénor.
Toutes ces saveurs exotiques fascinantes, Aliénor les imposera à sa table au royaume de France. Après plusieurs semaines à Constantinople, l'actuel Istanbul, le couple royal et l'ensemble des croisés poursuivent leur chemin vers Jérusalem.
Donc ils arrivent à Antioche, splendeur aussi de l'Orient. Antioche gouvernée par l'oncle d'Aliénor.
Raymond d'Antioche est un très beau garçon, très séduisant, en tout cas visiblement beaucoup plus séduisant que Louis VII. Il a la trentaine, il porte beau, c'est un homme décrit comme très valeureux.
C'est donc le frère cadet de son père qui redécouvre là, après bien des années, sa jeune nièce qu'il a connue lorsqu'il était à Bordeaux.
Aliénor, elle est ravie, elle retrouve toute la cour de son père que Raymond a emmenée avec lui. On y parle le poids de vin. Pour Aliénor, c'est une merveille.
Aliénor était fréquemment en compagnie de Raymond. Ils évoquaient les souvenirs de Bordeaux, souvenirs dans lesquels, évidemment, le roi de France était exclu.
De là naît la légende noire, se fortifie la légende sombre d'Aliénor d'Aquitaine, puisqu'on part du principe qu'elle aurait eu une liaison torride avec son oncle et que ça, Louis VII n'aurait pas supporté.
Tout ça, c'est bien sûr, sont des médisances, sont des mensonges qui sont destinés à salir l'image d'Aliénor.
Tout ça parce qu'elle s'oppose à la politique de son mari. À Antioche, Aliénor soutient la décision de son oncle d'utiliser l'armée des croisés pour libérer la ville d'Édesse, comme prévu. Mais Louis VII, jaloux, qui veut quitter Antioche au plus vite, a changé ses plans.
Louis VII a en tête d'attaquer Damas. Aliénor d'Aquitaine et Raymond d'Antioche lui disent « surtout pas ». C'est d'ailleurs la seule place forte musulmane alliée des chrétiens, globalement, qui ne fait pas de problème avec les chrétiens. Donc c'est une hérésie d'aller attaquer Damas. Et Louis VII va le faire quand même.
Le siège de Damas est un échec. Louis, pour se faire pardonner, se rend enfin à Jérusalem et va prier sur le tombeau du Christ.
Le bilan global de cette croisade est tout à fait négatif. Il n'a absolument rien gagné, sauf peut-être son paradis, ce qui est déjà beaucoup, mais en tout cas, au niveau politique, il a gagné très très peu de choses.
Les croisades, un échec militaire, mais aussi personnel. Le torchon brûle toujours entre Aliénor et Louis, malgré la naissance d'un autre enfant. Encore une fille.
La chose la plus importante pour Louis VII, c'est d'avoir un héritier mâle. Or, apparemment, Aliénor est incapable de lui donner cet héritier mâle.
10 ans après son mariage, le roi cherche alors un prétexte pour répudier la reine. À moins que ce ne soit l'inverse.
D'après les chroniqueurs, elle aurait parlé séparation de façon assez calme et assez directe en disant « L'Église a interdit les mariages consanguins au 4e et 5e degré, Il se trouve, cher Louis, que nous sommes au 4e et 5e degré, ce qui était vrai.
Évidemment, tous ces rois et tous ces princes au Moyen-Âge sont plus ou moins parents, plus ou moins cousins. En tout cas, c'est suffisant pour servir de prétexte à l'annulation et à la séparation.
Louis VII et Aliénor sont d'accord pour divorcer. Reste à prononcer l'annulation du mariage avec l'aide de quelques évêques complaisants. Ce concile a lieu ici, au château de Beaugency, à une heure de Paris, le 21 mars 1152.
On a déjà eu un antécédent pour un précédent concile, en fait, dans cette abbatiale. En 1104, on a déjà Philippe Ier qui répudie son épouse, Berthe de Hollande.
Xavier Lelevé, propriétaire du château de Beaugency.
Alors, on raconte que Aliénor d'Aquitaine attendait dans le château de Beaugency pendant que se déroulait le concile et que c'était la dernière fois que ces deux épouses se voyaient. Aliénor d'Aquitaine est quelqu'un qui souhaite le pouvoir, qui est une femme de très fort caractère, et ça lui permet de retrouver sa liberté.
Elle est terriblement maligne, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle est extraordinairement maîtresse d'elle-même.
À 30 ans, Aliénor redevient duchesse d'Aquitaine et de nouveau le meilleur parti de France.
Aliénor d'Aquitaine est surtout déterminée à se remarier, ce qu'elle va faire 2 mois presque jour pour jour après sa répudiation.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vanessa Pontet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Isabelle Benadj.